Je suis avec vous tous les jours. Je savais depuis un bon moment déjà que mes propriétaires nourrissaient un rêve qui exigeait la vente de leur maison et impliquait la participation de mon colocataire. Le projet, vaguement esquissé, était latent depuis quelques années. Mais voici que les événements semblaient se précipiter et le projet sur le point de se concrétiser. J'ai donc jugé plus sage de prendre les devants et de me mettre immédiatement en quête d'un nouvel appartement avant de me faire rattraper par la réalité. La perspective d'avoir à chercher un nouveau toit, alors que le pays traverse une importante crise du logement et qu'on se trouve en pleine pandémie, ne me souriait guère cependant. Assez vite, j'ai dû réaliser qu'on ne déménage pas à 66 ans comme à 40. Dans un contexte montréalais où les loyers sont rares et chers et où les nécessaires mesures sanitaires sont partout présentes, l'entreprise devient très vite anxiogène. En temps normal, déjà, le déménagement trône au sommet de l'échelle des situations génératrices de stress. C'est tout dire. L'esprit dorénavant hanté par mille préoccupations, ma routine matinale a été bouleversée. Prière et méditation se transformaient en pénibles séances de rumination angoissée et d'abattement. Je me sentais totalement incapable d'offrir à Dieu cet espace de liberté et d'ouverture gratuite du cœur qui rend possible le dialogue intérieur. Puis, comme cela arrive parfois, une éclaircie est apparue, une trouée dans un ciel lourd de nuages sombres. Et si mon temps de raison, en cette période troublée, consistait précisément à m'abandonner à Dieu tel que je suis, pétri d'angoisse, déstabilisé et incapable de belles et profondes réflexions. M'exposer humblement au rayonnement de l'amour divin, dans une relation réduite à sa plus simple expression, n'est-il pas déjà une prière? Le Seigneur est mon rocher, le rempart de ma vie. Il devenait évident que c'était uniquement en donnant à Dieu le plein accès à ma pauvreté que je pourrais aborder en toute confiance cette nouvelle étape. On retrouve dans Ésaïe au chapitre 41, verset 10, « Ne crains pas, je suis avec toi. » L'évangile de Matthieu que nous connaissons bien se termine par ces ultimes paroles du ressuscité sur le point de disparaître dans la nuée. « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je suis avec vous tous les jours. Combien de fois avons-nous lu et relu et même chanté ce verset au cours de notre vie? Une question se pose toutefois. Désirons-nous réellement la compagnie de Dieu? La souhaitons-nous, pénétrés que nous sommes d'une culture qui revendique à grands cris un maximum d'indépendance et d'autonomie pour l'individu et qui glorifie les héros puissants, quoique souvent peut-être bien solitaires. Nous trouvons aussi au chapitre 6 du livre du prophète Michée des mots que j'aime me remettre en mémoire et qu'une traduction rend de la manière suivante. On t'a fait savoir, ô homme, ce qui est bien, ce que Yahvé réclame de toi. Rien d'autre que d'accomplir la justice, d'aimer la bonté et de l'appliquer à marcher et de t'appliquer à marcher avec ton Dieu. C'est dans le livre du prophète Michée au chapitre 6, verset 8. T'appliquer à marcher avec ton Dieu. Ceci ne présuppose-t-il pas que Dieu soit déjà là, faisant route avec nous, avant même que nous en devenions conscients? Ici encore, je lis comme une invitation à porter attention à la présence discrète de Dieu à nos côtés, à discerner son action structurante et bienveillante sur notre vie. Clairement, ces versets n'impliquent aucunement que nous renoncions à notre autonomie d'action et à notre liberté de penser pour nous appuyer sur un Dieu qui nous couperait les ailes. Dieu n'a pas créé des pantins. S'il nous offre son appui et propose de nous accompagner sur le chemin, c'est pour que nous reprenions notre souffle et respirions à plein poumon. Dans son discours aux philosophes épicuriens et stoïciens d'Athènes, Paul exprime sa conviction de foi qu'en Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17, verset 28. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, écrivait aussi René Lyon au deuxième siècle de notre ère. À l'évidence, Dieu nous veut vivants, apaisés et animés d'une vraie liberté. Les chrétiens ne sont pas les seuls à faire l'expérience d'une présence réconfortante au fond d'eux-mêmes lorsqu'ils traversent des épisodes de détresse et d'anxiété. Beaucoup la font. Il me semble important de le rappeler ici. Présence apaisante, au profil incertain. Elle prend souvent l'apparence d'un souffle ténu et fragile. La caractériser n'a rien d'une évidence mathématique ou naturelle qui s'imposerait immédiatement et de manière irrécusable à l'esprit. L'attachement des croyants à la personne et aux paroles de Jésus leur fournit cependant un modèle et des critères pour lui donner un nom. Lorsqu'un individu angoissé et tourmenté à discerner dans la foi cette présence comme étant celle du Dieu vivant, sa vie trouve un sens et son fardeau devient plus léger. Cela peut libérer chez lui des énergies d'amour et d'espérance qu'une détresse trop profonde avait peut-être étouffées. Opérer un discernement sérieux obéit par ailleurs à certaines règles. Dans un premier temps, il implique qu'on apprivoise, comme Jésus, le silence, et qu'on prenne l'habitude de s'y plonger. Mais reconnaissons d'emblée que cela ne se fait pas sans une certaine dose de courage et de persévérance. Est-il nécessaire de le rappeler? Nul n'arrive à marcher sur les eaux tumultueuses si ce n'est en affrontant et en vainquant, un pas à la fois, de multiples peurs. Une vie humaine traverse de nombreuses zones de tempête. Et il existe un risque bien réel d'y sombrer. La lecture du récit des pèlerins d'Emmaüs me permet ensuite d'identifier une autre composante fondamentale d'un saint discernement. Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? Lit-on dans l'Évangile de Luc au chapitre 24, verset 32. Comme ce fut le cas pour ces deux disciples, les Écritures saintes nous offrent encore aujourd'hui un ensemble de critères solides et sûrs pour un bon discernement. En les fréquentant et en les méditant de manière assidue, nous nous mettons à l'écoute de l'Esprit divin, lui qui parle au cœur, l'éclairant et le réchauffant. N'est-il pas feu, amour et spirituelle onction? Comme nous le chantons dans le Veni Creator. Discerner ne se fait pas non plus sans le soutien et l'expertise de personnes dont la compétence en ce domaine est reconnue, personnes qui sont enracinées dans une communauté de foi ouverte et qui sont profondément ancrées dans les valeurs de l'Évangile. Il est si facile de céder au chant des sirènes et de se laisser séduire par des courants sectaires qui, à terme, nous emprisonnerons. J'ajoute aussi que, à mon avis, un diplôme ne fait pourtant pas foi de tout. Les compétences recherchées chez un accompagnateur ne peuvent être que le fruit d'un parcours académique reconnu. D'ailleurs, qui n'a pas croisé dans sa vie de ces personnes simples, au jugement droit, de qui émanent pourtant une sagesse et un bon sens que l'on sent marqués au sceau de l'Esprit-Saint? Un vrai processus de discernement exige un dialogue franc et transparent. Il s'appuie sur les ressources de l'intelligence humaine. On ne doit accepter aucun compromis dans ce processus sur le respect dû à la conscience libre et responsable des individus. Enfin, je suggère un dernier principe de discernement, qui, dans le contexte actuel, me paraît aussi absolument incontournable. Il ne faut pas avoir peur de confronter sa pensée et ses intuitions personnelles à celles d'individus évoluant dans des sphères culturelles et de pensée différentes de la nôtre. Ne croyons-nous pas que l'esprit est à l'œuvre toujours et partout et que, comme le dit Jésus, qui n'est pas contre nous est pour nous. Cette dernière citation était dans l'Évangile de Marc, au chapitre 9, verset 40. Ici, je propose un exemple qui vient de haut. J'ai commencé, quelques heures avant de rédiger ces lignes, la lecture de la dernière encyclique du pape François rendue publique en la fête du Saint d'Assise le 4 octobre 2020. Dans son introduction, l'évêque de Rome écrit ce qui suit. Les questions liées à la fraternité et à l'amitié sociale ont toujours été parmi mes préoccupations. Ces dernières années, je les ai évoquées à plusieurs reprises et en divers endroits. J'ai voulu recueillir dans cette encyclique beaucoup de ces interventions en les situant dans le contexte d'une réflexion plus large. En outre, si pour la rédaction de Laudato si, j'ai trouvé une source d'inspiration chez mon frère Bartholomé, patriarche orthodoxe, qui a promu avec beaucoup de vigueur la sauvegarde de la création, dans ce cas-ci, je me suis particulièrement sentie encouragée par le grand imam Ahmad Al-Tayeb, que j'ai rencontré à Abu Dhabi, pour rappeler que Dieu a créé tous les êtres humains égaux en droit, en devoir et en dignité, et les a appelés à coexister comme des frères entre eux. Ce n'était pas un simple acte diplomatique, mais une réflexion faite dans le dialogue et fondée sur un engagement commun. Cette encyclique rassemble et développe des thèmes importants abordés dans ce document que nous avons signé ensemble. J'ai également pris en compte ici, dans mon langage personnel, de nombreuses lettres et documents contenant des réflexions que j'ai reçues de beaucoup de personnes et de groupes à travers le monde. Il n'y a rien à ajouter. Le texte me paraît limpide et parle de lui-même. Nous savons tous que vivre en chrétien dans une société comme la nôtre ne va plus de soi. Est-il d'ailleurs encore nécessaire de le réaffirmer? Le message de Jésus sur le marché des propositions de sens s'affiche clairement désormais comme un parmi tant d'autres. Reconnaissons malgré tout que notre tradition, au cours de sa longue histoire, a accumulé une expérience et a développé des connaissances sur l'art de discerner, dont elle peut sans doute faire profiter ceux et celles de nos contemporains qui sont assoiffés de vie spirituelle. N'y aurait-il pas là un service que nous pourrions offrir à notre époque, à condition évidemment de le faire intelligemment et avec beaucoup d'humilité? Le développement fulgurant des instruments de communication et des médias sociaux a entraîné une offre spirituelle gigantesque. Beaucoup s'y perdent et se sentent démunis. Il n'est pas toujours facile de départager ce qui contribue à une authentique libération intérieure de ce qui, à terme, conduit à une profonde aliénation. Disciples de Jésus, nous croyons et acceptons que l'Esprit divin reste seul maître de son œuvre dans l'histoire de l'humanité et qu'il conduit les cœurs par des chemins qui lui sont propres. Dans la mesure où nous adhérons pleinement à cette affirmation de notre foi, nous devrions pouvoir admettre qu'un chrétien accompagne une personne issue d'une autre tradition spirituelle dans le plus grand respect de son propre cheminement intérieur. D'ailleurs, cela ne se pratique-t-il pas déjà? À ma connaissance, ici même dans notre milieu, un centre comme le Pèlerin travaille dans cette perspective. J'ai aussi en tête l'expérience inédite que fait le mouvement des Focolaris en Algérie et qu'il faut la peine de découvrir. Ne serait-il pas intéressant de faire connaître et de mieux soutenir de telles initiatives dans un monde terriblement bousculé et en perte de repères? Il me semble aussi que le renouveau missionnaire entrepris il y a une soixantaine d'années nous pousse dans cette direction. L'anthropologie chrétienne conçoit tout être humain comme créé à l'image de Dieu, digne du plus grand respect, doué d'intelligence et appelé à la communion dans la liberté. Mais de l'enfance à la maturité adulte, il y a une longue route à parcourir semée d'embûches. Dans cette aventure, nous le croyons, nul n'est pourtant laissé à lui-même. Le souffle divin, fidèle et sûr, libre et vivant, accompagne chacun. Peut-être nous arrive-t-il certains jours d'en douter, mais qu'arriverait-il si, dépassant nos doutes, nous nous efforcions de discerner et de rester attentifs aux signes qu'il envoie? L'humanité s'en trouverait-elle transformée?